On sait malheureusement que les comptoirs alimentaires un peu partout au Québec ont connu une hausse de leur fréquentation et malheureusement, ce sont désormais de nouvelles clientèles qui fréquentent ces lieux de dernier recours et on reçoit la directrice du comptoir alimentaire Drummond, Véronique Sayer, pour parler, bon, malheureusement de cet état de fait, mais surtout de toutes les énergies extraordinaires qu'elle et son équipe mettent de l'avant pour faire en sorte d'aider ces personnes à mieux s'intégrer dans la société avec un bedon bien rempli, parce que hein, ça commence toujours par là. Bonjour Véronique.
Bonjour Chantal.
J'ai nommé d'entrée de jeu des statistiques un petit peu effarantes de nouvelles clientèles qui sont des travailleurs, donc des gens qui ont un emploi et qui recourent au panier alimentaire. On parle ici d'une augmentation de 102% entre 2019 et 2023. Est-ce que ça vous a surpris, cette augmentation-là?
Non, pas du tout. Mmh. Même que nous, on a dû modifier nos heures d'ouverture pour répondre à la clientèle qui travaille là, de jour, donc qui ne pouvait pas se présenter sur place.
Parce que, ça fait combien de temps que le comptoir alimentaire existe?
Le comptoir a 34 ans.
34 ans. Et oui. Auparavant, quelle est la... Brossez-moi un petit peu un portrait là, de la clientèle à laquelle vous étiez habitué.
En fait, on avait surtout des gens qui étaient sur l'aide sociale et que il y avait une coupure de prestations, soit parce qu'ils avaient fraudé, soit parce que tout à coup, il y avait une dépense inusitée là à faire, donc ils arrivaient moins. On avait aussi des gens malades et des gens là qui avaient beaucoup d'endettement. Puis les familles monoparentales. Mais là, actuellement, oui, beaucoup plus de travailleurs, beaucoup plus de personnes âgées. Ça aussi, c'est nouveau. Et beaucoup plus d'immigrants. Donc, c'est comme trois volets, là.
Oui, malheureusement, c'est ce qu'on entend à peu près de tous vos collègues directeurs d'organismes communautaires là, qu'on entend à ce micro. Ce sont trois clientèles qui n'étaient pas nécessairement des adeptes ou des clients, des bénéficiaires de services de comptoir alimentaire. Je vais peut-être faire une précision ou vous entendre sur cette précision-là, Véronique. Oui. Vous parlez de des gens de l'aide sociale qui ont peut-être commis une fraude ou une dépense inattendue, mais dans un contexte là où on en a vraiment besoin, il n'y a pas de dépense nécessairement inattendue, pas de fraude, il reste que de nos jours, vivre avec l'aide sociale, c'est peu.
C'est très peu. Est-ce que augmenter l'aide sociale est une solution? Je ne sais pas parce que faut savoir que l'aide sociale, il y a aussi les contraintes sévères à l'emploi. Ces gens-là, donc, ne peuvent absolument pas travailler. Le montant est vraiment plus élevé que l'aide sociale de base, là. Mais dans un contexte qui a plus ou moins d'emplois disponibles selon les compétences, c'est sûr que il n'y a pas beaucoup d'options pour ces gens-là. Donc, s'ils n'ont pas accès à un HLM, puis ils se retrouvent avec un loyer à 800 $ et plus, c'est certain qu'ils n'arrivent pas, là.
Oui, rappelez-nous un petit peu là, les montants de l'aide sociale là, pour mettre tout le monde au même diapason.
Oui, en fait, je pense qu'on est rendu à un montant autour de 800 $ pour les personnes seules.
Par mois.
Ouais. Et on doit avoir proche un 1200 pour les personnes qui ont une contrainte sévère à l'emploi. Ce qui est très difficile d'obtenir, d'ailleurs. La contrainte sévère à l'emploi, là, c'est très difficile.
Okay. Malgré tout ça, c'est un 400 $ de plus. Ben oui. Et là, même le 800 $ par mois que vous évoquez pour un appartement, c'est même le minimum presque à ce qu'on observe. Mm-hmm. Parce que j'imagine que c'est un des facteurs qui explique aussi la hausse de vos services, qui est l'augmentation des prix des logements.
En fait, je dirais que c'est la cause première en ce moment. Là. Depuis les deux dernières années, c'est la première cause parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a quand même une dizaine d'années, nous, on fait un suivi avec chaque personne qu'on reçoit et on va voir un peu au niveau des finances, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Il y a 10 ans, facilement, on pouvait dire, écoute, ton loyer est trop cher, faudrait que tu trouves autre chose. Maintenant, ce n'est plus une option. On dit, en fait, si tu as un logement, fais juste le garder.
Il y a quelques années, il y avait eu un débat sur le fait que les personnes d'aide sociale étaient comme... je vais utiliser le terme puni, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais ouais. Lorsqu'ils décidaient de partager leur logement avec quelqu'un, comment ça en est au niveau de la loi maintenant? Parce que je me dis, ça prend plus de solidarité avec des montants de cette nature-là.
Oui, bien, en fait, et de toute façon, ils doivent le déclarer s'ils sont en colocation.
Et quel impact ça a sur les montants?
D'après moi, ça doit être au niveau du retour d'impôt à la fin de l'année. Mm. Ils vont recevoir moins parce que les dépenses sont considérées comme scindées en deux. Mais même s'ils reçoivent moins, c'est la meilleure option. Même un travailleur qui habite seul ne peut plus joindre les deux bouts parce que le fait d'être seul, d'absorber toutes les factures seul, c'est impossible.
Oui. À quel moment vous avez commencé à voir une modification là, dans votre clientèle? Vous nous avez parlé de trois clientèles qui n'étaient pas là avant, soit les personnes âgées, les immigrants, les travailleurs. Expliquez-nous un petit peu l'historique de tout ça, là, quand vous avez vu apparaître ces trois nouvelles clientèles.
La première qui est apparue, je dirais, il y a peut-être deux, trois ans, mais ça va avec l'augmentation du coût du logement là, qui a bondi dans les deux dernières années. Fait qu'on a les papas qui ont la garde des enfants une fin de semaine sur deux.
Ah.
Donc, c'est des travailleurs, mais ils n'ont pas le droit aux allocations familiales. Ils doivent donner une pension alimentaire. Et la fin de semaine, ils ont un loyer souvent à 1200, 1300 $ pour la fin de semaine qu'ils ont les enfants. Ils doivent avoir une chambre ou deux. Quand ils ont les enfants cette fin de semaine-là, ils n'ont pas assez de sous là, pour les nourrir.
Mais les mamans, est-ce que c'est parce qu'elles étaient déjà malheureusement dans ce même type de famille-là, elles étaient déjà, elles étaient déjà bénéficiaires de vos services?
Oui. Exactement, okay. les mères, ça fait très longtemps là, qu'on les a.
Donc, il y avait déjà cet écart-là, homme-femme, quand on parle des salaires, mais là, vous constatez que les hommes aussi, les papas, dans ces tranches de famille-là, y ont recours.
Oui, effectivement. Donc, c'est souvent juste la fin de semaine qu'ils ont les enfants, mais c'est aussi des papas qui ne feront pas d'activité avec leurs enfants parce qu'ils font juste arriver. Mm. Tandis qu'à l'époque, ils pouvaient avoir un loyer à 800 $ ben il y avait un lousse. Ils étaient capables de les nourrir, puis même de payer d'autres factures là, pour la maman si l'enfant voulait jouer au hockey, faire des cours de théâtre. Tu sais, il y avait des possibilités. Là. Mm.
Est-ce que je vous pose une question à brûle pour point, mais oui. c'est un volet là, que on ne nous a pas nécessairement dit. Là, dans d'autres organismes communautaires, mais vous me faites réaliser que avec la hausse des séparations, est-ce qu'il n'y a pas un certain frein aussi au logement? Parce qu'effectivement, si on veut accueillir nos enfants, ça nous prend des plus grands appartements. Donc, ça fait en sorte que les appartements de deux puis trois chambres sont davantage aussi convoités.
Oui, sont davantage convoités, puis ça va aussi avec l'arrivée en grand nombre de demandeurs d'asile. Mm-hmm. Ces gens-là, souvent, c'est des gens qui ont une grande famille.
Ouais.
Donc, un 3,5 ne convient pas. Ils vont probablement, on sait là, dans certains cas, c'est mieux ça que rien, mais s'ils peuvent avoir un 4,5, 5,5, 6,5, c'est sûr qu'eux aussi ont un besoin à ce niveau-là.
Écoutez, Véronique, je vais pas creuser davantage le volet immobilier là. C'est pas votre domaine, mais je voulais amener un petit peu de contexte. Il reste que on dit souvent dans la pyramide des besoins, c'est se loger, se nourrir. Alors vous êtes pile poil dans ces besoins là. Parlez-nous de votre offre exactement du comptoir alimentaire Drummond.
Oui, nous, peut-être ce qui nous distingue des autres, c'est vraiment que nos gens qui ont besoin d'aide sont reçus par un intervenant, un intervenant formé, donc qui va prendre le temps avec la personne de démystifier qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont besoin d'aide alimentaire et va aussi leur présenter toutes les pistes de solutions possibles pour améliorer sa situation. Donc, vraiment, notre objectif, c'est qu'il soit chez nous le moins longtemps oui. possible. Donc, on va lui parler, oui, des cuisines collectives, mais des fois, c'est juste une question d'éducation. On a des gens qu'on se rend compte que, bon, ils payent 100 $ de forfait de téléphone cellulaire par mois. Mm. Puis on leur dit, hey, il y en existe des super bons à 30, puis ils ne savaient pas. Donc, tu sais, il y a toute une éducation à travers ça. Puis, ils vont faire un suivi au rendez-vous prochain. Donc, est-ce que tu es allé voir pour faire ton budget avec tel mm-hmm. organisme? Est-ce que tu as appelé pour avoir la location au logement? Mm-hmm. Tu sais, donc, ça permet à la personne de retrouver le plein pouvoir sur sa vie et de développer son autonomie alimentaire et financière.
Donc, ce que j'entends, c'est que peut-être certains comptoirs alimentaires, on y va simplement pour la distribution, mais vous tentez mmh. de comprendre pourquoi cette portion-là de leur budget, dans leur budget total, là, de voir est-ce qu'on est capable de couper ailleurs ouais. et de faire en sorte que, conséquemment, le budget alimentaire peut augmenter. Ouais, j'aime bien l'approche.
Oui, ben oui, puis c'est aussi une façon de les ramener à leur responsabilité, mm-hmm. à faire des bons choix et y aller aussi avec le niveau de vie. Des fois, quelqu'un qui est en moyen, ben s'il faut qu'il baisse son niveau de vie pour pouvoir s'alimenter, je pense qu'il faut être prêt à faire des sacrifices. On souhaite que ça soit pas pour toujours, là, mais ça va un peu avec ça. Fait qu'il y a un gros volet éducation, sensibilisation et vraiment de motiver ces personnes-là à retrouver un équilibre.
Mmh. Vous parliez de cuisine collective. Est-ce qu'on, oui. est-ce qu'il y a une éducation aussi à apprendre à cuisiner? Parce qu'on le sait, les aliments transformés coûtent plus cher, les livraisons coûtent plus cher, mais si on n'a pas appris justement à faire des recettes santé qui ne coûtent pas trop cher, mais on peut avoir recours à des produits qui, malheureusement, puis là, sans rentrer dans tout le système, mais oui. il reste que il y a d'avoir accès aussi à des endroits où les aliments coûtent moins cher. Donc, c'est complexe tout ça.
Oui, ben en fait, on a remarqué là la nouvelle génération, je dirais peut-être les 18-30 ans qu'on a comme usagers, ne savent pas cuisiner. Mm. Utilisent beaucoup le micro-ondes ou les repas toutes faites.
Ouais.
Donc les cuisines collectives servent à ça, à apprendre à cuisiner, à apprendre à magasiner les spéciaux, à faire des recettes avec ce qui est pas cher mais nourrissant. Puis pouvoir faire des plats pour toute la semaine. Mm-hmm. Mais on sent que ça s'est perdu. Là. À l'époque, on avait des cours d'économie familiale. Oui. Et franchement, moi, être dans un ministère quelconque, dont l'éducation, je ramènerais ces cours-là. Parce que les gens ne savent plus cuisiner.
Je suis entièrement d'accord avec vous, Véronique. Le message est lancé. Oui. S'il y a des décideurs politiques oui. à l'antenne, on va en profiter, Véronique, pour faire une courte pause et on revient oui. tout de suite après pour parler davantage de vos services.
Parfait.
De retour au Héros anonymes, je suis avec Véronique Sayer, directrice générale du comptoir alimentaire Drummond. Véronique, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, là, un peu le parcours de la cueillette des aliments disponibles et de quelle manière ils sont livrés et distribués.
Bien, en fait, nous, au comptoir alimentaire Drummond, on est partenaire avec Moisson Mauricie Centre du Québec. Mm-hmm. Comme c'est quand même à une heure de route, le Moisson, qui est situé à Trois-Rivières, il nous laisse opérer le programme de récupération alimentaire en supermarché. Mm. Donc, on a nos camionneurs qui, chaque jour, vont récupérer les invendus dans nos supermarchés, va aussi chez plusieurs distributeurs, dans notre marché public, tout ça. Ensuite, ça arrive au comptoir alimentaire, c'est pesé et trié. Mm-hmm. Donc, ce qui est plus ou moins comestible va aller en cuisine pour être transformé en soupe, en sauce.
Comestible dans le sens...
C'est peut-être défraîchi, mais...
c'est encore bon, là.
C'est encore
ouais,
bon.
Ouais.
Fait que l'objectif, c'est de moins jeter possible.
Mm-hmm.
Donc, ces aliments-là vont être transformés et ça va être remis dans les dépannages alimentaires. Et les denrées reçues, là, également, une fois triées, c'est remis dans les dépannages alimentaires. Puis quand on a des choses vraiment en grande quantité, c'est remis en avant à monsieur, madame, tout le monde. Puis on ne génère pas de résidus parce que nous, on fait affaire avec une ferme qui vient récupérer les résidus, en fait, de ce qui était comestible. Et va nourrir ses animaux avec ça.
Ah, ben vous êtes vraiment zéro déchet, comme on dit.
Presque. On s'en vient bon.
Et donc, ce qui est distribué, c'est quoi? C'est vraiment un sac d'épicerie, une boîte, des aliments? Qu'est-ce qu'on peut trouver exactement?
On a un peu de tout. Nous, en fait, on va donner du lait, des œufs qu'on achète toutes les semaines. Ils ont deux à trois portions de viande par personne par semaine. On a trois légumes, deux fruits. Et le reste, ben on a du canage, des pâtes, des sauces. On a beaucoup de pain. Puis si ça va super bien dans les légumes, comme ces temps-ci, ben tu sais, des fois, on monte jusqu'à 8 portions de légumes par personne.
Vous parliez des fermes qui interviennent en bout de piste, mais est-ce qu'eux aussi vous fournissent, parce qu'on parlait de légumes, de lait, d'œufs, ils sont aussi des producteurs?
Oui, ben en fait, ils nous fournissent pour le temps des paniers de Noël, mais pendant l'année, c'est un peu plus difficile. Mais s'ils ont des surplus, ils ne mettent pas à la poubelle, là, ils nous appellent, puis on s'organise là, pour aller les récupérer.
OK, mais c'est en temps ordinaire, dans le roulement quotidien, c'est plus vraiment une fois que ces aliments-là sont rendus dans les chaînes alimentaires.
Oui, exactement. Puis, tu sais, nous, on a des gens aussi, selon leur situation financière, il y en a qui viennent toutes les semaines, mais il y en a qui viennent aussi juste une fois par mois ou une fois aux deux semaines. Fait que c'est là, mais tu sais, je dirais qu'on est assez généreux dans les portions. On soulage la faim, mais je pense qu'on fait un petit peu plus que la soulager, là.
Oui, bien, c'est aussi, vous parliez d'éducation, mais c'est aussi des fois quand on reçoit un panier comme ça puis on ne sait pas nécessairement quoi faire avec, c'est là que l'aliment peut devenir défraîchi parce qu'on ne savait pas trop comment. Donc, de réapprendre à cuisiner puis être capable de valoriser les aliments qui sont dans le panier, c'est ça, c'est une autre histoire.
Oui, c'est moins évident, mais justement, on a un projet là qui devrait prendre forme avec en partenariat avec les cuisines collectives.
Ah, excellent.
Où on va vraiment, les gens, ils vont prendre leur dépannage, puis ensuite de ça, ils s'en vont en cuisine et ils vont apprendre à bonifier et maximiser ce qu'ils ont dans leur dépannage alimentaire.
Vous disiez là que vous avez dû ouvrir vos heures d'ouverture.
Oui.
Quel impact ça a eu sur votre équipe?
Ça fait... Là, présentement, il n'y a personne qui a accepté de finir plus tard que 5 heures.
Mm.
Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert les plages le midi, ce qu'on n'avait pas. Là, les gens avaient une heure de pause. Fait que là, on a dû jouer un peu des gens qui vont dîner à 11h30 puis d'autres qui vont dîner à midi et demi pour pouvoir laisser des plages ouvertes, là.
Et donc, votre équipe, elle est composée de combien de personnes?
On est quand même une grosse équipe de 20.
Ah oui?
Oui, parce qu'on a quand même fait... On a beaucoup de bénévoles aussi, mais les bénévoles sont davantage au tri, mais on a 6 intervenants sur le plancher.
Ah, quand même.
Puis je vous dirais que le service est presque toujours plein. Tu sais, nous, on doit faire 300 ménages semaine, à peu près.
Donc, 300 familles qui viennent par semaine là, récupérer des denrées.
Oui, exactement.
Et de quelle manière, je voyais un peu là, que vous avez organisé le travail avec un plateau de travail. Parlez-moi de cet aspect-là de votre organisation.
Oui, bien, en fait, on accueille des gens qui ont des travaux communautaires à faire.
Mm-hmm.
On accueille aussi des gens sur des programmes d'employabilité. Donc, ces gens-là, soit ils travaillent la section qui est réfrigérée pour la confection des dépannages, au tri ou à la transformation en cuisine. Puis ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est des gens qui étaient un peu plus loin du marché de l'emploi ou qui avaient des problèmes de comportement, qu'on peut travailler avec eux pour les réhabiliter à l'emploi. Et je vous dirais que dans 90 % des cas, les gens sortent d'ici puis se trouvent un emploi là, rapidement.
Ah, c'est bien.
Ouais. Fait qu'on a des belles réussites. Tu sais, des fois, c'est juste d'avoir grandi dans une famille où t'as jamais été valorisé, où t'as jamais eu la table dans le dos, ben ici, ils vont l'avoir, puis ça va faire toute une différence. Là.
Qu'est-ce qui vous rend fière dans tout ça, Véronique?
L'esprit de solidarité, je pense, qui se développe entre tout le monde. Il y a un respect mutuel entre les usagers, les bénévoles, les employés. Il n'y a pas de jugement, puis tout le monde a le droit à ses erreurs, tout le monde a le droit de se reprendre, puis tout le monde a un potentiel aussi de s'améliorer. Je pense que c'est ça. C'est ce qui nous rallie tous ensemble.
Je comprends que vos clients, vos bénéficiaires sont nourris dans leur estime d'eux-mêmes aussi.
Oui, beaucoup. Les intervenants travaillent beaucoup ça. Ramener l'estime, la confiance, les motiver, les encourager. Tu sais, on a des gens malades qui reçoivent des soins pour le cancer. Ben des fois, juste le petit moment qui passe avec l'intervenant, d'avoir le sourire, qui prend de ses nouvelles, tout ça, ça fait toute une différence dans une semaine, puis ça motive à continuer les traitements.
Mais c'est une autre réalité aussi, des gens parfois de famille, les deux travaillent, tout va bien, là tout à coup il y a une maladie qui arrive, on dépasse le fonds qui est prévu pour nous soutenir et on se retrouve là avec une perte de revenus. Je comprends aussi que ça fait partie des clientèles là, qui doivent avoir besoin d'un coup de pouce dans pareilles circonstances.
Ben oui, effectivement, tu sais, on oublie ces familles-là qui ne sont pas nécessairement pauvres, mais qui vivent une situation de vulnérabilité. On a beaucoup, là, depuis la dernière année, des parents, en fait, qui avaient un enfant malade. Et donc, un parent a arrêté de travailler. Ben, on leur demande pas de vendre leur maison à cause de ça ou de vendre leur voiture. C'est une situation temporaire.
Avec des solutions pour que ça devienne... parlant de solutions temporaires ou situations temporaires, je pense que vous avez des petits enjeux avec votre bâtiment aussi, où ça a été réglé.
Oui. Non, effectivement, on a des enjeux de bâtiment. Notre bâtisse, elle est vétuste, donc en fin de vie. Les ingénieurs nous ont dit que ça donnait rien de mettre des sous sur des réparations parce que ça va des fondations jusqu'au toit, là.
Non, ça a l'air vraiment une situation qui se reproduit à plusieurs endroits au Québec, si on en croit l'actualité ces temps-ci avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et autres.
Oui. Et l'hôpital de Drummondville aussi.
Oui, oui.
Fait que finalement, il y a beaucoup d'enjeux d'infrastructure. Fait que nous, en fait, on a trouvé un autre lieu, mais on n'était pas les seuls intéressés, donc présentement, c'est en justice.
Ah oui.
Et on attend de savoir ce qu'il y en est. N'empêche que déménager un comptoir alimentaire quand 80 % du financement provient de dons, c'est pas
évident. C'est des gros défis. Véronique, on va vous souhaiter le meilleur courage dans tous ces défis.
Oui.
Je rappelle que s'il y a des gens qui veulent vous soutenir par bénévolat et dons acceptés, on peut aller sur votre site Internet, Comptoir alimentaire Drummond.
Oui, comptoiralimentairedrummond.com.
Merci beaucoup, Véronique, d'avoir été avec nous et la meilleure des chances pour la suite.
Merci beaucoup et une belle après-midi.
Au revoir.
Bonjour.